Top, c'est parti. Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
9h40 sur France Inter, l'instant M, l'actu des médias, en veux-tu, en voilà.
Merci d'être avec nous.
Les images, les correspondants en direct.
C'est une aventure, le journalisme, et c'est pour ça que la télévision est encore magnétique.
Le 4 juin, trois médias en ligne publiaient le même jour des enquêtes accablantes sur des groupes WhatsApp ou Facebook, auxquels certains policiers et gendarmes adhèrent pour déverser leur haine, notamment raciste, en toute impunité. Mediapart, Arte Radio et Street Press n'ont pas travaillé de concert. Ce n'est pas non plus la mort de George Floyd, noir américain asphyxié par un policier, qui les a fait choisir ce sujet. Simplement, leurs journalistes sentaient sur le terrain les voyants clignoter au rouge. Comment le ministère de l'Intérieur a-t-il réagit face à la révélation de ces torrents d'insultes xénophobes? Dans quelques minutes, je m'entretiendrai avec Mathieu Mollard, rédacteur en chef de Street Press, qui hier publiait encore une nouvelle enquête, encore un nouveau groupe Facebook, encore du racisme à ciel ouvert.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Qui dit retour de l'instant M, dit retour des mardis de l'instant M, dit retour de Xavier Delaporte et de sa fenêtre du mardi matin. Bonjour Xavier.
Bonjour Sonia, bonjour à toutes et à tous.
Alors, cette fenêtre, elle s'ouvre sur un bilan du confinement, un bilan numérique, rien que ça.
Oui, alors je ne sais pas si je devrais le dire comme ça, mais je le dis quand même. Pour qui s'intéresse au numérique, la période que nous a fait vivre cette épidémie est absolument passionnante. Alors, son remontée à la surface, un peu comme quand on clarifie le beurre, vous savez que toute la matière grasse remonte d'un coup. Donc se remonter à la surface, à peu près toutes les questions que pose l'Internet d'aujourd'hui. Alors on s'est demandé si les réseaux sociaux tiendraient le coup de la surcharge de la connexion, et hop, on s'est intéressé à la structure d'Internet, ce qu'on ne fait jamais.
C'est vrai.
Ensuite, on a rigolé quelques jours pendant les apéros Zoom. On a trouvé extraordinaire de pouvoir maintenir ce lien avec la famille, avec les amis. Et puis, on est devenu un peu mélancolique et plus silencieux à l'idée que les rapports pouvaient se limiter à ça. Bref, on a réfléchi à la sociabilité numérique. Par exemple, beaucoup de gens se sont fait aussi une idée du télétravail. Et j'ai entendu de la part de Quidam des analyses qui étaient à peu près aussi fines et profondes que celles que j'avais lues jusque-là sous la plume d'ethnographes dans des articles académiques. On a évidemment débattu sur l'enseignement à distance comme jamais.
Ça,
et puis aussi,
oui,
partout dans les administrations, dans les entreprises, les agents des services informatiques sont devenus des sortes de héros. Tout à coup, on a appris leur prénom et on a compris à quel point ils étaient essentiels. On a débattu sur l'application Stop Covid et puis tout à coup, on a pu lire en détail et commenter du code informatique avec le même sérieux que si c'était la Bible. Plus généralement, à l'aune des politiques de surveillance par les technologies qui ont été mises en place dans le monde entier, on s'est posé très très concrètement l'éternelle question et ô combien essentielle en sciences politiques de l'équilibre entre la sécurité et la liberté. Alors toujours à l'occasion de cette crise et du confinement, beaucoup de gens qui n'y avaient jamais songé ont découvert qu'on pouvait avoir une vie sexuelle à distance et qu'elle avait ses beautés. La fracture numérique aussi. Bah oui, elle a ses beautés. La fracture numérique aussi, dont on parle souvent sans réussir à la rendre palpable. Elle est apparue aux yeux de tous avec, pour ne prendre qu'un exemple, le téléchargement des attestations. Eh ben, ouais, il y a des gens qui n'ont pas d'imprimante. Et même, il y a des gens qui n'ont pas de smartphone. Et même, il y a des gens qui ont un seul accès à Internet pour toute la famille. Et puis, ils nous ont sauté aux yeux tous les bénéfices et les inconvénients de l'information contemporaine, hein, tous ceux dont on parle tout le temps dans l'instant M. On a vécu en temps réel la progression du virus, on a vécu aussi en temps réel les errements et hésitations de nos dirigeants, les controverses et puis aussi les belles choses. Tout ça grâce à la consultation compulsive de nos téléphones, surtout les premières semaines. Et puis Instagram, pour prendre juste un exemple, est devenu encore plus nul que d'habitude parce que Instagram, c'est le lieu d'exposition de la super vie qu'on a. Or, pendant cette période, pas grand monde n'a eu une super vie et ceux qui avaient une super vie avaient peur qu'on leur reproche, donc l'ont moyennement montré. Et puis, on s'est mis à prendre un soin inconsidéré de tous nos outils numériques parce que un téléphone tombé dans les toilettes ou un verre d'eau sur notre ordinateur serait devenu un drame sans nom. Alors, je pourrais continuer encore longtemps cette liste des questions numériques dont on a débattu parce que soudain, eh ben, on les a vécues dans notre chair.
Ouais. Et avec quelles conséquences, Xavier?
Eh ben, c'est difficile à dire. En tout cas, je me risquerais pas à une conclusion ferme. Mais au début du confinement, j'en ai discuté avec le grand intellectuel camerounais Achille Mbembe, qui était lui-même confiné en Afrique du Sud, où il vit. Et il m'a dit quelque chose qui m'a frappé. Il m'a dit, Cette épidémie marque la fin définitive de l'ère pré-numérique. Il n'y aura plus de retour en arrière. Alors, il le disait avec une sorte de regret, en tout cas d'appréhension. Je ne sais pas si Achille Mbembe a raison. Ce que je sais, c'est que cet étrange choc entre un phénomène très archaïque, c'est-à-dire une épidémie, et notre modernité technologique, nous a fait prendre conscience de notre dépendance au numérique dans presque tous les champs de la vie. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette prise de conscience? Elle est décisive, à mon sens, pour les années qui viennent.
Voilà. Et vous vous posez la question, hein, je le rappelle régulièrement dans votre excellent podcast. Le code a changé. Voilà. Et on est deux à trouver qu'Instagram, c'est très nul. Merci, Xavier Delaporte. Salut et à la semaine prochaine.
À bientôt, à la semaine prochaine.
L'Instant M continue l'actu des médias ensemble jusqu'à 10h. Trois médias en ligne, je vous le disais, Arte Radio, Mediapart, Street Press, leurs enquêtes accablantes sur les réseaux sociaux dont certains policiers et gendarmes se servent pour déverser en toute impunité, manifestement, un racisme et une homophobie ultra virulents. Mise en son par Arte Radio.
Et donc, je m'aperçois qu'en fait, il est sur Adopte un mec.
Sur sa photo, on le reconnaît pas trop. Hein.
Sachant que... il doit charmer à mort de la putain nègre blanche.
Et en plus, il fait vachement plus clair de peau que ce qu'il est en vrai. Sinon, j'aime bien le relation sérieuse souhaitée, donc il faudra prendre son temps pour franchir chaque étape à un rythme serein.
De toute façon, ça se voit à sa gueule. Hein. Je veux dire, n'importe quelle gonzesse qui a minuit du jote sait qu'elle a affaire au nègre typiquement séducteur qui la fera cocu à tous les niveaux. Enfin voilà, ça se voit quoi.
Voilà, pratiques et mots et termes et vocabulaire employés par un groupe de policiers à Rouen. De son côté, le site d'info Street Press révélait il y a quelques jours l'existence d'un groupe Facebook privé baptisé TN Rabio Police Officielle qui réunit quand même plus de 8000 membres. Révélation qui a fait beaucoup couler d'encre et qui a permis de dévoiler hier un autre groupe Facebook du même acabit. Bonjour Mathieu Mollard.
Bonjour.
Vous êtes le rédacteur en chef de Street Press, média en ligne dont on va parler ce matin. Je vous remercie d'être en direct avec nous sur France Inter. On va évidemment revenir sur vos enquêtes et sur vos révélations. Un mot d'abord. Vous croyez savoir que le rapport 2019 de l'IGPN est prêt en réalité depuis deux mois, que le ministère de l'Intérieur a plutôt cherché à bloquer sa sortie, ne voulant pas de conférence de presse. Et ce serait donc la pression mise par vous et par les deux autres médias que j'ai cités, qui en a provoqué une hier au ministère de l'Intérieur?
Hier, j'étais au ministère de l'Intérieur pour la conférence de presse de Monsieur Castaner et à cette occasion, j'ai croisé un haut fonctionnaire qui m'a révélé, j'étais avec un confrère à ce moment-là, que le rapport était prêt depuis deux mois et que c'est le ministère de l'Intérieur, sous différents prétextes, qui avait refusé sa publication et ensuite qui refusait non pas la conf de presse de Monsieur Castaner, mais la conf de presse de ce matin qui accompagne la sortie de ce rapport de l'IGPN. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que ça dit beaucoup de l'indépendance ou plutôt de l'absence d'indépendance de l'IGPN, puisque comment ce service qui est censé enquêter sur les débordements, sur le racisme, sur les violences de la police, peut le faire en toute indépendance quand il n'a même pas la liberté de choisir quand et comment il publie ses propres rapports.
Oui. On va écouter un extrait de la conférence de presse de Christophe Castaner hier à laquelle vous avez assisté.
Je n'ai de cesse de rappeler aux policiers et aux gendarmes leur devoir d'exemplarité. Et les choses sont claires. Chaque soupçon doit mener à une enquête. Et chaque faute doit mener à une sanction.
Alors revenons, Mathieu Mollard, sur vos révélations du 4 juin, sur ce groupe Facebook privé baptisé TN Rabio Police Officielle, qui a été créé en 2015. J'aimerais que vous nous en donniez un aperçu, en tout cas, de ce qui a permis de révéler votre enquête.
C'est un groupe Facebook fermé, donc qui, pour y rentrer, il faut répondre à un certain nombre de questions, expliquer dans quel service on travaille, dans quelle promotion on est passé pour devenir policier ou gendarme. On a vu qu'il y avait aussi quelques proches du genre des épouses de policiers qui étaient membres de ce groupe, mais leur immense majorité sont des fonctionnaires de police. Et dedans, l'essentiel des conversations, c'est des messages de haine. Alors parfois sous couvert d'humour, on peut voir Les fossoyeurs, c'est un mème qui est célèbre sur Internet. Quatre personnes noires sur lesquelles, sur ce montage, on a collé des symboles qui font référence à des personnes décédées dans le cadre d'interventions policières. Et sur ce groupe, des centaines de personnes like, commentent des propos racistes. Et ce qui, moi, m'a saisi, alors c'est la violence des propos, mais aussi leur actualité. On est sur l'actualité très récente, celle du confinement, celle de la manif de la semaine dernière organisée par Assa Traoré, et ces commentaires racistes n'ont que quelques jours, parfois quelques heures. C'est assez inquiétant, j'ai trouvé.
Oui. Derrière ce groupe Facebook privé, il y a un collectif, dites-vous, fondé à Lyon en 2012 par des policiers en colère.
Alors, c'est ça. Derrière, disons que l'un des administrateurs de ce groupe s'est fait connaître comme étant le président, la présidente d'une association qui a été fondée par les policiers en colère. À cette époque-là, les policiers en colère manifestaient notamment pour dénoncer le fait que l'un des leurs allait être mis en examen pour avoir tiré, abattu d'une balle dans le dos Amine Bentounsi. Et il trouvait ça scandaleux et réclamait, comme le réclame le syndicat Alliance, une présomption de légitime défense.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a parfois des voix qui se désolidarisent dans ce groupe Facebook. Il y a parfois des policiers qui souhaitent prendre leur distance, qui mettent les autres en garde en disant mais vous êtes en train de tendre le bâton pour vous faire battre. Et là, ils se font immédiatement insulter et conspuer par les autres.
Tout à fait, comme l'explique Ronan Maël, qui est l'auteur de cette première enquête qui a déclenché énormément de choses. Il y a des fonctionnaires de police qui disent que ça va trop loin, mais on leur répond que il n'y a pas besoin de je ne sais plus quel est le mot exact, mais de entre guillemets de faible dans l'institution,
de fragile dans la boîte.
Mmh. Voilà.
Ouais, ouais,
mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la seconde enquête que nous publions hier, qui révèle l'existence d'un autre groupe qui réunit 9000 personnes, on l'a découvert parce que un fonctionnaire de police nous a prévenu, nous l'a signalé et nous a fourni des captures d'écran. Alors bien sûr, il y a des fonctionnaires de police qui tentent, qui sont indignés de ce qui se passe et de ce racisme-là, et c'est ça qu'on essaie d'expliquer, à la fois que le problème est massif. Quand on parle de milliers de fonctionnaires, on peut pas parler, comme l'a dit Christophe Castaner hier, de quelques moutons noirs, mais d'un problème, à mon sens, systémique. Mm-hmm. Qui dit problème systémique ne veut pas dire que tous les policiers sont racistes. C'est aussi ce que montrent ces enquêtes, c'est qu'il y a des fonctionnaires de police qui se battent et qui tentent de nous alerter.
Alors, la publication de vos enquêtes, Mathieu Mollard, a déclenché l'ouverture d'une enquête. Cette fois, une enquête officielle, une enquête de police, pas une enquête de presse.
Oui, tout à fait. Christophe Castaner a saisi, sur la base de l'article 40, le parquet pour lui demander d'ouvrir une enquête. Parquet qui, je crois savoir, a déjà envoyé une réquisition à Facebook pour accéder aux infos et aux noms des gens qui sont présents dans ce groupe-là. Après, reste à voir si Facebook va accéder à cette demande. C'est un autre sujet, mais important. Dans quelle mesure les GAFA, et notamment Facebook, jouent le jeu de la démocratie, ça va être une question centrale. Il y a une enquête qui est ouverte. Alors après, attendons de voir aussi. C'est une bonne nouvelle, c'est une première étape. Attendons de voir et on sera attentifs, nous, en tant que journalistes, à suivre ce dossier sur la durée, parce que c'est ce qu'on essaye de faire depuis des années à Street Press, de suivre ces sujets-là sur le long cours pour voir ce que ça va donner, en espérant que l'histoire ne soit pas enterrée quand le sujet sera moins sous les projecteurs des médias.
Ce qui est intéressant là, c'est que les médias ont provoqué l'ouverture d'une enquête de police de justice, mais votre travail a fait réagir d'autres confrères, d'autres médias. Je prends par exemple, la réaction de William Moulinier, les journalistes police-justice à LCI et TF1. Je cite son tweet, donc ce sont ses mots à lui, face à l'explosion d'une nouvelle forme de journalisme militant, d'opinion ou engagé, vous l'appelez comme vous le souhaitez, il est urgent de cultiver un journalisme qui revendique son ignorance, se recentre sur le factuel et replace le contradictoire au cœur de son projet. Commentaire. Réaction.
On partage pas la même vision du journalisme, mais c'est pas nouveau. C'est-à-dire que moi, ce que je regrette dans ses propos, c'est qu'il revendique une sorte de neutralité.
Oui.
En réalité, comme si nous nous détachions des faits et que lui incarnait, lui et le média pour lequel il travaille, mais et tout un courant médiatique incarnait une objectivité. Je ne crois pas que quand j'allume LCI, j'assiste à une neutralité très grande. Après, je trouve ça très bien qu'il y ait de la pluralité dans les médias, mmh. et qu'il y ait des médias qui, comme LCI, et des journalistes comme William Molinet, qui portent un point de vue, qui est un point de vue proche de celui de l'institution, qui lui permet d'avoir des sources et sortir des infos. C'est un journaliste que je suis depuis un certain temps, et je ne nie pas qu'il sort des infos. Mais il sort des infos parce qu'il a une proximité intellectuelle avec l'institution. Et c'est très bien, il en faut. Mais il faut aussi, je crois, des journalistes qui assument un point de vue différent, ce qui est le cas de Street Press, ce qui est le cas de Mediapart, c'est le cas du Bondy Blog, parce que on n'en a pas encore parlé, mais ils ont révélé l'affaire, le passage à tabac de Gabriel, qui n'avait que 14 ans par des policiers. Je pense que ça a aussi fait beaucoup pour ce sujet.
Ça a aussi fait, oui, Mathieu Mollard, je vous interromps une seconde. Hein. Gabriel, donc c'est ce gamin de 14 ans qui a 50 kilos, qui pèse 50 kilos, donc c'est vous dire que c'est une petite chose. Il est intercepté au moment où il vole un scooter, il est poursuivi, et il a raconté au Bondy Blog comment il a été plaqué au sol par des adultes, comment on a mis un genou sur sa tête, un genou sur ses épaules, comment il a été menotté, comment on l'a tenu pendant qu'un autre agent donnait des coups de botte dans sa tête, au visage. Et ensuite, les réseaux sociaux ont diffusé massivement le visage de ce gamin dont l'œil est totalement tuméfié.
Oui, voilà, merci de compléter. Voilà, il faut une pluralité de la presse et il faut des journalistes comme ceux d'LCI, comme ceux de BFM Télé, comme ceux de un tas de médias qui ont une proximité intellectuelle avec l'institution. Il faut des journalistes comme ceux de Mediapart, comme ceux du Bondy Blog ou comme ceux de Street Press qui essayent de porter un autre point de vue, mais dans tous les cas, nous nous basons sur des faits. Street Press est avant tout un média d'information. On peut à la fois avoir un point de vue et en même temps être sérieux, être factuel, être documenté, faire de l'enquête, du reportage, partir du terrain, donner la parole aux gens.
Je vous entends. Je pense aussi que le service police-justice de BFM TV n'a pas qu'une proximité intellectuelle avec l'institution. Je pense aussi que là aussi, il y a des journalistes qui enquêtent et qui font leur travail de démentier, de recoupement de l'information. Mais j'entends tout à fait votre point de vue. Et là, tout le monde vous entend. Là, vous avez gagné une immense visibilité ces derniers jours, provoquer l'ouverture d'une enquête de police-justice. On va rappeler, Mathieu Mollard, que Street Press est un média entièrement gratuit, contrairement à Mediapart qu'on vient de citer, que c'est un média de terrain, que vous revendiquez le fait d'être dans la rue, d'être proche des gens, et que, par ailleurs, vous avez besoin d'être financé, vous le rappelez régulièrement sur votre site.
Tout à fait. On pense qu'il faut qu'il existe des médias gratuits parce que en étant gratuit, on permet d'être lu par tout le monde, comme France Inter l'est, qui peut être entendu par tout le monde. Mais France Inter bénéficie, et c'est très bien, de l'argent de l'État, de nos impôts. C'est un service public et c'est une richesse en France. Street Press est un média indépendant gratuit et pour ça, on a besoin que des lecteurs nous soutiennent en nous donnant 1 euro, 4 euros, 5 euros par mois,
ou nous sommes plus
conséquents, hein, ne vous privez pas, pour nous aider à mener ces enquêtes et à continuer
beaucoup,
ce travail
Mathieu
qu'on fait
Mollard.
Depuis un peu plus de 10 ans maintenant.
Merci beaucoup, c'est la fin de l'émission. Merci d'avoir été avec nous sur France Inter.